Éric Vuillard.
J'ai ce rapport de sérieux à l'histoire, le rapport à la fois scolaire d'abord, le rapport plus ou moins savant, je l'ai comme tout le monde à des degrés variés. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on pénètre, quand un régime comme le régime hitlérien est défait, on a accès à tous les tiroirs. De fait, quand il a été aussi espionné, on a donc les conversations téléphoniques.
Ça peut pas faire de mal.
Il est donc possible de reconstituer un degré d'intimité au fond des grands personnages qu'il est rarement donné de pouvoir obtenir.
Et sur l'ordre du jour, on sait comment est née l'idée ?
J'avais lu donc quelque chose qui portait sur la panne de Panzer le jour de l'Anschluss. Si l'armée allemande n'était pas prête, alors au moment de l'Anschluss, à faire la guerre, l'attitude de nos gouvernements prenait une autre couleur. Nous étions en quelque sorte sans excuse.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Nous sommes un lundi. La ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours. Ils prennent le tram, l'autobus, se faufilent vers l'Impérial, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ses petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s'écoula ainsi, paisible, normale. Et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, entre le marché et la petite cour où l'on pend le linge, puis le soir entre le bureau et le troquet, et enfin rentrer chez soi, bien loin du travail décent, bien loin de la vie familière, au bord de la Chepraie, des messieurs sortaient de voiture devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière, ils descendirent de leur grosse berline noire et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. Ils étaient 24, près des arbres morts de la rive, 24 par-dessus noirs, marron ou cognac, 24 paires d'épaules rembourrées de laine, 24 costumes trois pièces et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée. Mais bientôt, il n'y aura plus d'assemblée, il n'y aura plus de président. Et dans quelques années, il n'y aura même plus de parlement, seulement un amas de décombres fumants. Pour le moment, on dévisse 24 chapeaux de feutre où l'on découvre 24 crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là, dans le grand vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Tels sont les personnages ubuesques qui ne vont pas tarder à entrer en scène sur le grand théâtre de la politique européenne en cette année 1933. Ainsi s'ouvre le dernier livre d'Éric Vuillard, « L'ordre du jour », paru en mai 2017 chez Actes Sud, qui vient d'être récompensé par le prix Goncourt. Coup de projecteur mérité donc sur ce récit aussi bref que féroce, qui épingle avec humour les petites lâchetés des grands hommes qui font et défont l'histoire. Né en 1968 à Lyon, l'auteur, qui est aussi scénariste et réalisateur de films, croque avec lucidité l'envers du décor de la machinerie diplomatique qui a conduit à l'annexion de l'Autriche en 1938, prologue de la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a tout juste 80 ans. Passionné par les sujets historiques, la colonisation du Congo, la conquête de l'Ouest américain, la prise de la Bastille, l'écrivain revendique le recours au récit pour démythifier les grands événements. Ni historien ni romancier, mais un peu des deux à la fois, il développe une narration tissée de mille détails et anecdotes afin, dit-il, d'aborder la grande histoire à hauteur d'homme. Ce soir, je vous invite à parcourir ce livre incisif et drôle qui emprunte les chemins du passé pour mieux parler de notre présent. Retrouvons nos personnages là où nous les avions laissés, à la porte du Reichstag. Nous sommes à Berlin le 20 février 1933. Hitler, fraîchement nommé chancelier d'Allemagne, convoque les puissances industrielles de son pays pour préparer l'avenir. Si l'on connaît trop bien, hélas, la suite de l'histoire, on découvre, sous la plume facétieuse d'Éric Vuillard, les coulisses des négociations qui ont accéléré la montée du nazisme. Nous sommes dans l'antichambre du pouvoir. Découvrons les silhouettes de certains protagonistes, symboles de ces vieilles familles industrielles et patriarcales qui ont fait la fortune de l'Allemagne. Soudain, les portes grincent, les planchers crissent, on cause dans l'antichambre. Les 24 lézards se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droits. Derrière les battants de porte, on entend des voix étouffées, puis un sifflement, et le nouveau président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce. Hermann Göring n'est pas seulement venu les accueillir, il évoque aussitôt les élections à venir, celles du 5 mars. Les 24 sphinx l'écoutent attentivement. « La campagne électorale qui s'annonce est déterminante », déclare le président du Reichstag. « Il faut en finir avec l'instabilité du régime. L'activité économique demande du calme et de la fermeté. » Les 24 messieurs hochent religieusement la tête. Les bougies électriques du lustre clignotent. Le grand soleil peint au plafond brille davantage que tout à l'heure. Et si le parti nazi obtient la majorité, ajoute Göring, ces élections seront les dernières pour les 10 prochaines années. Et même, ajoute-t-il dans un rire, pour 100 ans. Un mouvement d'approbation parcourut la travée. Au même moment, il y eut quelques bruits de porte et le nouveau chancelier entra enfin dans le salon. Ceux qui ne l'avaient jamais rencontré étaient curieux de le voir. Hitler était souriant, décontracté, pas du tout comme on l'imaginait, affable, oui, aimable même, bien plus aimable qu'on ne l'aurait cru. Il eut pour chacun un mot de remerciement, une poignée de main tonique. Une fois les présentations faites, chacun reprit place dans son confortable fauteuil. Krupp se trouvait au premier rang, picorant d'un doigt nerveux sa minuscule moustache. Juste derrière lui, deux dirigeants de l'IG Farben, mais aussi von Finck, Kant et quelques autres, croisèrent doctement les jambes. Il y eut une toux caverneuse, un capuchon de stylo fit un minuscule cliquetis. Silence. Ils écoutèrent. Le fond du propos se résumait à ceci. Il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d'être un fureur dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Lorsqu'Hitler eut terminé, Gustav se leva, fit un pas en avant et, au nom de tous les invités présents, il le remercia d'avoir enfin clarifié la situation politique. Le chancelier fit un rapide tour de piste avant de repartir. On le congratula, on se montra courtois. Les vieux industriels paraissaient soulagés. Une fois qu'Hitler se fut retiré, Göring prit la parole. Il évoqua de nouveau les élections du 5 mars. C'était là une occasion unique de sortir de l'impasse où l'on se trouvait. Mais pour faire campagne, il fallait de l'argent. Or, le parti nazi n'avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, un conseiller se leva, sourit à l'assemblée et lança « Et maintenant, messieurs, à la caisse ». Cette invite, certes un peu cavalière, n'avait rien de bien nouveau pour ces hommes. Ils étaient coutumiers des pots de vin et des dessous de table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises. Cela porte plusieurs noms. Lobbying, étrenne, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marques. Gustav Krupp fit don d'1 million. George von Schnitzler de 400 000. Et l'on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l'histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n'est rien d'autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens, qu'un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l'avenir bien des partis à proportion de leurs performances. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la réunion du 20 février, pour en saisir le fond d'éternité, il faut désormais appeler ces hommes par leur nom. Car les 24 ne s'appellent ni Schnitzler, ni Witzleben, ni Schmidt, ni Finck, ni Rotsterg, ni Hebel, comme l'état civil nous incite à le croire. Ils s'appellent BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Sous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios réveils, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là partout sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Ils nous soignent, nous vêtent, nous éclairent, nous transportent sur les routes du monde, nous bercent. Et les 24 bons hommes présents au palais du président du Reichstag ce 20 février ne sont rien d'autre que leurs mandataires, le clergé de la grande industrie. Ce sont les prêtres de Ptah, le dieu égyptien des artisans. Et ils se tiennent là, impassibles, comme 24 machines à calculer aux portes de l'enfer.
Il Vous savez que je n'ai jamais eu d'autre pensée ni d'autre objectif que d'assurer la continuité et le prestige de notre maison. Je prétends qu'il devient plus que jamais indispensable de mettre les aciéries et Sennebeck à l'abri des pressions politiques qui pourraient éventuellement les menacer. Cependant, il est évident que pour maintenir la bonne marche de nos usines, nous sommes amenés, bon gré mal gré, à avoir des contacts quotidiens avec ces nouveaux messieurs. Voilà pourquoi je sens qu'il est indispensable d'avoir à mon côté un homme qui soit bien vu par le gouvernement actuel.
Bon, ça suffit, j'ai compris. Ma démission s'impose, c'est bien ça, n'est-ce pas, Joachim?
Crois-moi, j'y suis contraint, Herbert. Mais il y a nos affaires.
Je sais, oui. Elles priment tout pour vous, quoi qu'il advienne. C'est votre seul évangile.
Quittons Berlin pour les Alpes bavaroises, à la frontière avec l'Autriche, où Hitler possède un chalet, le Berghof, le fameux « nid d'aigle », selon la formule d'André-François Poncet. Après les industriels allemands, Éric Vuillard épingle le comportement faussement naïf de Lord Halifax, le président du Conseil britannique, défenseur d'une politique d'apaisement envers l'Allemagne nazie. Comme de nombreux politiques européens, l'anglais s'aveugle devant l'évidence des événements. Le voici en visite officielle. Passionné de chasse, il est d'abord reçu par Göring. Et c'est ainsi qu'en novembre 1937, entre deux mouvements d'humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l'annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie et du bombardement de Guernica par la Légion Condor, Halifax, Lord Président du Conseil, se rendit en Allemagne à titre personnel à l'invitation d'Hermann Göring, ministre de l'Air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag, le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup. Et pourtant, Halifax ne tique pas. Il ne lui semble pas bizarre, ce type lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Pourtant, Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Göring. Il devait un peu connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes de fantaisie, sa morphinomanie, son internement en Suède, le diagnostic accablant de violence, de désordre mental, de dépression, ses penchants suicidaires... Il ne pouvait pas s'en tenir aux héros du baptême de l'air, aux pilotes de la première guerre, aux marchands de parachutes, aux vieux soldats. Ce n'était pas un naïf ou un amateur, Halifax. Et il devait être trop bien renseigné pour ne pas trouver un peu curieux cette promenade au cours de laquelle on les aperçoit tous deux dans un petit film, admirer le parc à bisons où Göring, furieusement décontracté, dispense ses leçons de bien-être. Il n'a pas pu ne pas voir l'étrange veste de cuir noir que porte Hermann Göring, ni le poignard à sa ceinture, ne pas entendre les allusions sinistres enrobées de grasses plaisanteries. Et puis, il a rencontré le Führer. Et là encore, il n'aurait rien vu, Halifax? Il a été jusqu'à laisser entendre à Hitler que les prétentions allemandes sur l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie ne semblaient pas illégitimes au gouvernement de Sa Majesté, à condition que cela se déroule dans la paix et la concertation. Il n'est pas farouche, Halifax. Mais une dernière anecdote rend son parfum au personnage. Devant le Berchtesgaden, où on le déposa, Lord Halifax aperçut une silhouette près de la voiture qu'il prit pour un valet de pied. Il imagina que l'homme était venu à sa rencontre afin de l'aider à gravir les marches du perron. Alors, tandis qu'on ouvrait la portière, il lui tendit son manteau. Mais aussitôt, Von Neurath ou quelqu'un d'autre, un valet de pied peut-être, lui souffla à l'oreille « Le Führer ». Lord Halifax leva les yeux. En effet, c'était Hitler. Il l'avait pris pour un laquais. C'est qu'il n'avait pas daigné hausser le nez, comme il le rapportera plus tard dans son petit livre « Plénitude des jours ». Il n'a tout d'abord vu que des pantalons et tout en bas des souliers. Le ton est ironique. Lord Halifax cherche à nous faire rire, mais je ne trouve pas ça drôle. L'aristocrate anglais, le diplomate qui se tient fièrement debout derrière sa petite rangée d'ancêtres, sourd comme des trombones, con comme des buses, voilà qui me laisse froid. N'est-ce pas le très honorable premier vicomte Halifax qui, en tant que chancelier de l'échiquier, s'opposa fermement à toute aide supplémentaire à l'Irlande pendant toute la durée de sa chancellerie? La famine fit 1 million de morts. Et puis cette maladresse n'a rien d'exceptionnel, c'est de la cécité sociale. En revanche, pour ce qui est des idées, il n'est pas bégueule, Halifax. Ainsi, à propos de son entrevue avec Hitler, il écrira « Le nationalisme et le racisme sont des forces puissantes, mais je ne les considère ni contre nature, ni immorales. Et un peu plus tard, je ne puis douter que ces personnes haïssent véritablement les communistes. Et je vous assure que si nous étions à leur place, nous éprouverions la même chose. Telles furent les prémices de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la politique d'apaisement.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Allô ? Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle ? Ma jument grise, morte aujourd'hui ? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle ! Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle ! Notre château est donc détruit ? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit ?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Trois mois après la visite d'Halifax, un autre visiteur, hélas, ne sort pas indemne du château de Berghof. Alors que l'Europe fait la politique de l'autruche, l'Allemagne nazie multiplie les actes de terreur. L'incendie du Reichstag le 27 février 1933, une semaine après la réunion des industriels, l'ouverture de Dachau la même année, les mesures contre les malades mentaux, puis les premières lois raciales. À la frontière autrichienne, Hitler ne cache plus ses intentions d'annexion. Le chancelier d'Autriche, Kurt Schuschnigg, est convoqué au Nid d'Aigle pour réviser l'accord entre les deux pays. Voici cette scène grotesque, comme le dit l'auteur, où le destin de l'Autriche bascule, entraînant celui de toute l'Europe. Le 12 février 1938, Schuschnigg se rend donc à Berchtesgaden pour une rencontre avec Adolf Hitler. Il arrive à la gare déguisé en skieur. L'alibi de son voyage est un séjour au sport d'hiver. Et tandis qu'on charge dans le train son équipement de ski, la fête à Vienne bat son plein. Car c'est carnaval. Les dates les plus joyeuses chevauchent ainsi les rendez-vous sinistres de l'histoire. Fanfare, quadrille, bouquet final, on joue une des 150 valses de Strauss, empreinte d'élégance et de charme, sous une avalanche de confiseries. Le carnaval de Vienne est certes moins connu que ceux de Venise ou de Rio. On ne porte pas de si beaux masques et on ne s'y abandonne pas à des danses si fiévreuses, non. Ce n'est rien d'autre qu'une série de balles. Mais c'est tout de même une immense fête. Les corps constitués du petit État catholique et corporatiste organisent les réjouissances. Ainsi, pendant que l'Autriche agonise, son chancelier, déguisé en skieur, s'éclipse de nuit pour un improbable voyage et les Autrichiens font la fête. Au matin, dans la gare de Salzbourg, il y a juste un cordon de gendarmes. Le temps est humide et froid. La voiture qui emporte Schusnigg emprunte la route nationale. Le grand ciel gris le rend songeur. Toute vie est misérable et solitaire, tous les chemins sont tristes. La frontière approche. Schusnigg est pris d'une brusque appréhension. Il a le sentiment d'être au bord de la vérité. Lentement, on se met à grimper vers Berchtesgaden. Schusnigg fixe le sommet des pins, s'efforçant de maîtriser son malaise. Et puis la voiture arrive au Berghof. Le portail s'ouvre et se referme. Schusnigg a le sentiment d'être tombé dans un horrible piège. Vers 11h du matin, après quelques moulinets de politesse, les portes du bureau d'Adolf Hitler se referment derrière le chancelier d'Autriche. Ici, il n'y a qu'un seul cadrage qui vaille, il n'y a qu'un art de convaincre qui vaille, il n'y a qu'une seule manière d'obtenir ce que l'on souhaite, la peur. Oui, ici c'est la peur qui règne. Terminez les politesses allusives, les formes retenues de l'autorité, les apparences. Ici, le petit Juncker tremble. Il n'en revient pas tout d'abord qu'on ose lui parler ainsi, Schusnigg. Il se sent injurié. Et pourtant, après le déjeuner, il ne s'en va pas. Il ne manifeste aucun mécontentement. Il fume. Il fume clope sur clope en attendant la reprise des négociations. Deux longues heures s'écoulent. Soudain, Hitler le fait rappeler. Le bureau baigne dans la lumière des lampes. Hitler le parcourt à grands pas. De nouveau, le chancelier autrichien éprouve un sentiment de gêne. Et aussitôt qu'il s'assied, Hitler l'agresse, lui annonçant qu'il consent à une ultime tentative de conciliation. « Voici le projet, dit-il. Il n'y aura pas de négociation. Je ne changerai pas une virgule. Ou bien vous signez, ou bien il n'y a pas lieu de poursuivre nos entretiens. Je prendrai ma décision dans la nuit. » Le Führer a son air le plus grave et le plus sinistre. Mais qu'exige donc cet accord ? Il exige, et c'est là que les choses se corsent, que les idées nationales socialistes soient autorisées en Autriche et que Seyss-Inquart, un nazi, soit nommé ministre de l'Intérieur avec les pleins pouvoirs. Ingérence prodigieuse. Il exige ensuite l'amnistie de tous les nazis emprisonnés en Autriche, criminels compris. Ces mesures devront être effectives sous 8 jours, en échange de quoi, formule inouïe après ce qu'on vient de lire, l'Allemagne renonce à toute immixtion dans la politique intérieure de l'Autriche. On croit rêver. À présent, le chancelier Schusnigg est face à son moment d'opprobre ou de grâce. Va-t-il céder à cette machination médiocre et accepter l'ultimatum ? Le corps est un instrument de jouissance. Celui d'Adolf Hitler s'agite éperdument. Il est raide comme un automate et virulent comme un crachat. Schusnigg regarda fixement Adolf Hitler. Il écrira plus tard dans son livre de souvenirs qu'Hitler exerçait sur les hommes une emprise magique. Et il ajoute « Le Führer attirait les autres à lui par une force magnétique, puis les repoussait avec une telle violence qu'un abîme s'ouvrait alors, que rien ne pouvait combler. » On voit qu'il n'est pas avare d'explications ésotériques, Schusnigg. Cela justifie ses faiblesses. Le chancelier du Reich est un être surnaturel, celui que la propagande de Goebbels voudrait nous montrer, créature chimérique, effrayante, inspirée. Et finalement, Schusnigg céda. Il fit même pire. Il bredouilla. Puis il déclara qu'il était prêt à signer, mais il émit une objection. La plus timide et la plus aboulique qui soit, la plus veule aussi. « Je vous ferai seulement remarquer, ajouta-t-il dans un mélange perceptible de malice et de faiblesse qui dut le défigurer, que cette signature ne vous avance à rien. » À cet instant, il dut savourer la surprise d'Hitler. Il dut savourer la seule petite étincelle de supériorité qu'il put dérober au destin sur Adolf Hitler. Oui, il dut jouir, lui aussi, mais d'une autre manière, comme un escargot peut-être, de ses cornes molles. Oui, il dut jouir. Le silence après sa réplique dura une éternité. Schusnigg éprouva sa part invincible, minuscule. et il se tortilla sur son siège. Hitler eut un regard interloqué. Qu'était-il en train de lui dire ? D'après notre constitution, renchérit alors Schuschnigg d'un ton doctoral, c'est la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République, qui nomme les membres du gouvernement, de même que l'amnistie est sa prérogative. C'était donc cela. Il ne se contentait pas de céder à Hitler, il lui fallait encore se retrancher derrière un autre. Lui, le petit autocrate. Voici que soudain, au moment où son pouvoir devenait empoisonné, il acceptait de le partager. Ce devait être un moyen pour Schuschnigg de se rassurer. Il fallait à tout prix que la situation ait l'air la plus normale du monde. Il continuait donc à faire comme s'il s'agissait d'une véritable conférence entre chefs d'État, comme s'il était encore le représentant d'un pays souverain. Mais la brève victoire de Schuschnigg est illusoire et Hitler lui impose un pacte encore plus implacable. À la frontière, les manœuvres d'intimidation commencent. L'annexion de l'Autriche précipitera le début de la Seconde Guerre mondiale. Pour évoquer la terrible menace qui plane alors sur l'Europe, Éric Vuillard rend hommage à l'œuvre prémonitoire d'un certain Louis Souther, artiste suisse méconnu qui a fini sa vie dans la misère. À l'époque, le fou incompris est peut-être la personne la plus lucide de son temps. Ainsi, peut-être qu'au moment où Hitler jette à la tête de Schuschnigg son ultimatum, au moment où le sort du monde, à travers les coordonnées capricieuses du temps et de l'espace, se retrouve un instant, un seul instant, entre les mains de Kurt von Schuschnigg, à quelques centaines de kilomètres de là, dans son asile de Balègue, Louis Souther était peut-être en train de dessiner avec les doigts sur une nappe en papier une de ses danses obscures. Des pantins hideux et terribles s'agitent à l'horizon du monde où roule un soleil noir. Ils courent et fuient en tous sens, surgissant de la brume, squelettes, fantômes. Pauvre Souther. Il avait déjà passé plus de 15 ans dans son asile. 15 ans à peindre ses angoisses sur de mauvais bouts de papier, des enveloppes usagées, dérobées à la corbeille. Et à cet instant où le destin de l'Europe se joue au Berghof, ces petits personnages obscurs, se tordant comme des fils de fer, me semble un présage. Souther était revenu d'un long séjour loin de chez lui, très loin, à l'étranger, à l'autre bout du monde, dans un état de délabrement inquiétant. Après quoi, il avait vécu d'expédient. Musicien pour thé dansant durant la période touristique, une réputation de folie avait commencé à le suivre partout où il allait. Dans son visage s'imprima une mélancolie profonde, et il fut interné à l'asile de Balègue. De temps en temps, il fuguait. On le ramenait là-bas, décharné, à moitié mort de froid. En haut, dans sa chambre, il entassait dessin sur dessin, une pile monstrueuse de croquis représentant des êtres noirs, difformes, de grands infirmes palpitants. Son propre corps était si maigre, fatigué par de longues marches dans la campagne. Ses joues étaient évidées, caverneuses, il n'avait plus de dents. Enfin, ne parvenant plus à tenir de pinceau ou de plume pour dessiner à cause de l'arthrose qui déformait ses mains, presque aveugle, il se mit à peindre avec les doigts, juste en les trempant dans l'encre, vers 1937. Il avait près de 70 ans. Il fit alors ses plus belles œuvres. Il se mit à peindre des cohortes de silhouettes noires, agitées, frénétiques, on dirait des grappes de sang, des vols de sauterelles. Et cette agitation forcenée vivait dans l'esprit de Louis Souther, une forme de hantise qui le terrifiait. Mais si on songe à ce qui se passait en Europe, autour de lui, pendant ses longues années de réclusion à Balègue dans le Jura, on peut penser que ce long ruisseau de corps noirs, tordus, souffrants et gesticulants, que ces colliers de cadavres augurent quelque chose. On dirait que le pauvre Souther, enfermé dans son délire, sans le savoir peut-être, filme avec les doigts la lente agonie du monde qui l'entoure. On dirait que le vieux Souther fait défiler le monde entier, les spectres du monde entier derrière un pauvre corbillard. Tout se transforme en flammes et en épaisse fumée. Il trempe ses petits doigts tordus dans le petit pot d'encre et il nous livre la vérité de son temps. Une grande danse macabre. Après de nombreux obstacles administratifs et une vaine tentative de résistance de la part de Schuschnigg, Hitler lance l'ordre d'invasion. C'est en conquérant qu'il prend le chemin de son pays natal. Mais contrairement à ce que montrent les films de propagande de l'époque, l'heure de gloire tourne à la débandade.
L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. Les premiers soldats allemands ont franchi la frontière. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont refoulés. Personne ne viendra troubler la paix. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer.
À Vienne, au comptoir du Grand Café, on murmure que les Allemands ne sont pas encore arrivés à Wels, qu'ils ne seraient peut-être même pas à Meckenhofen. Les mauvais esprits ricanent qu'ils se sont trompés de direction, qu'ils roulent vers Suse ou Damiette, qu'on les verra l'an prochain à Bobino. Mais certains évoquent à voix basse une panne, une immense panne d'essence, un gros problème de ravitaillement. Hitler a quitté Munich en automobile, le visage fouetté par un vent glacial. Sa Mercedes roule à travers les profondes forêts. Il avait prévu de passer d'abord à Braunau, sa ville natale, puis à Linz, la ville de sa jeunesse, et enfin à Leonding, où reposent ses parents. C'était en somme un joli voyage. Vers 16h, Hitler avait franchi la frontière. Il faisait un temps radieux mais très froid. Son cortège était composé de 24 automobiles et d'une vingtaine de camionnettes. Tout le monde est là. La SS, la SA, la police, tous les corps d'armée. On communie avec la foule, on s'arrête un instant devant la maison natale du Führer, mais pas de temps à perdre, on est déjà si en retard. Les fillettes tendent des bouquets, la foule agite ses petits drapeaux à croix gammées, tout va bien. En milieu d'après-midi, le cortège a déjà traversé de nombreux villages. Hitler sourit, agite la main, l'exaltation est visible sur sa figure. Il fait le salut national-socialiste à tout bout de champ, à de vagues assemblées de paysans ou de jeunes filles. Mais le plus souvent, il se contente de ce geste étrange que Chaplin a si heureusement parodié, le bras plié dans un mouvement désinvolte un peu féminin. C'est alors qu'un minuscule grain de sable se glissa dans la formidable machine de guerre allemande. Il y eut d'abord une rangée entière de blindés sur le bas-côté. Hitler, dont la Mercedes dut s'écarter, les regarda avec mépris. Puis ce furent d'autres véhicules de l'artillerie lourde, immobiles au milieu de la route. Et on eut beau klaxonner, hurler que le Führer devait passer. Rien à faire, les chars ramaient dans la colle. C'est sublime, un moteur. Un vrai miracle, quand on y pense. Mais voilà que dès que ça tombe en panne, quelle mouscaille! On n'y pige plus rien. Faut foutre les mains dans un affreux cambouis, dévisser, revisser. Or, ce 12 mars 1938, malgré un grand soleil, il faisait un froid de gueux. Ce n'était pas drôle de sortir sa boîte à outils sur le bord de la route. Hitler est hors de lui. Ce qui devait être un jour de gloire, une traversée vive et hypnotique, se transforme en un encombrement. Au lieu de la vitesse, la congestion. Au lieu de la vitalité, l'asphyxie. Au lieu de l'élan, le bouchon. Dans les petites villes d'Altheim, de Ried, un peu partout, les jeunes Autrichiens attendent, le visage violacé par le vent. Certains pleurent de froid. Régulièrement, à l'entrée des villages, on entend « Der Führer kommt !» Et puis, comme rien ne vient, on se remet à discuter de choses et d'autres. Car ce n'était pas seulement quelques tanks isolés qui venaient de tomber en panne. Ce n'était pas juste un petit blindé par-ci par-là. Non, c'était l'immense majorité de la grande armée allemande. Et la route était maintenant entièrement bloquée. Ah, mais on dirait un film comique. Un Führer ivre de colère, des mécanos courant sur la chaussée, des ordres hurlés à la hâte dans la langue râpeuse et fébrile du Troisième Reich. Et puis, une armée, lorsqu'elle se rue sur vous, lorsqu'elle défile à 35 à l'heure sous le grand soleil, ça embouche un coin. Mais une armée en panne, c'est le ridicule assuré.
Laissant à la Gestapo, police spéciale du Troisième Reich, le temps de faire son œuvre, le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs.
En tant que Führer et chancelier de la nation allemande, j'annonce l'entrée de mon pays natal au sein du Reich allemand.
In das Deutsche Reich.
Un mois à peine après l'invasion de l'Autriche et le discours historique d'Hitler au palais impérial de Vienne, un référendum entérine l'annexion de l'Autriche avec plus de 99% des voix. En septembre 1938, Anglais, Français et Italiens se retrouvent à la table des négociations face à Hitler. Ils en ressortiront avec les fameux accords de Munich, illusoires et vains, qui cèdent la Tchécoslovaquie à l'Allemagne nazie et lui ouvrent la voie vers la Pologne, la Belgique, puis la France. Il semble parfois que ce qui nous arrive soit écrit sur un journal vieux de plusieurs mois. C'est un mauvais rêve qu'on a déjà fait. Ainsi, à peine 6 mois plus tard, 6 mois après l'Anschluss, le 29 septembre 1938, on se retrouve à Munich pour la célèbre conférence. Et comme si les appétits d'Hitler pouvaient s'arrêter là, on brade la Tchécoslovaquie. Les délégations françaises et anglaises se rendent en Allemagne. On est bien accueillis. Dans le grand hall, le lustre teinte, les pendeloques de cristal, comme des carillons que le vent ballotte, jouent leur partition aérienne au-dessus des croque-mitaines. Les équipes de Daladier et de Chamberlain tentent d'arracher à Hitler des concessions pricocolines. On accable l'histoire. On prétend qu'elle ferait prendre la pose aux protagonistes de nos tourments. On ne verrait jamais l'ourlet crasseux, la nappe jaunie, le talon de chéquier, la tache de café. Des événements, on ne nous montrerait que le bon profil. Pourtant, si l'on regarde bien, sur la photographie où l'on voit Chamberlain et Daladier à Munich, juste avant la signature, aux côtés d'Hitler et de Mussolini, les premiers ministres anglais et français ne semblent pas très fiers. Mais tout de même, ils signent. Après avoir traversé les rues de Munich sous les acclamations d'une foule immense, les accueillant par des saluts nazis, ils signent. Et on les voit. L'un Daladier, le chapeau sur le crâne, un peu gêné, faisant des petits coucous. L'autre Chamberlain, le hat à la main, avec un grand sourire. Cet inlassable artisan de la paix, comme le nomment les actualités du temps, grimpe sur le perron pour l'éternité en noir et blanc entre deux rangées de soldats nazis. À cet instant, le commentateur inspiré nazille que les 4 chefs d'État, Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler, animés d'une même volonté de paix, posent pour la postérité. L'histoire rend ses commentaires à leur dérisoire nullité et jette sur toutes les actualités à venir un discrédit navrant.
Ainsi, à Munich est né un immense espoir.
Ceux qui disent cela ignorent le sens des mots. Ils parlent la langue du paradis où, dit-on, tous les mots se valent. Un peu plus tard, Édouard Daladier, à Radio Paris, 1648 mètres sur grandes ondes, après quelques notes de musique, raconte.
Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. J'ai la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée.
Il n'en croit rien. Ah, les cons, s'ils savaient, aurait-il murmuré à sa descente d'avion face à la foule qui l'acclame. Dans ce grand bric-à-brac de misère où se préparent déjà les pires événements, un respect mystérieux pour le mensonge domine. Les manœuvres terrassent les faits et les déclarations de nos chefs d'État vont être bientôt emportées comme un toit de tôle par un orage de printemps.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Someday I could still be saved, drifting on the waves, going with the flow. Then one day someone's voice will say, you gotta choose your way and give it your all. Only I'm trapped in my soul, feeling that I want more, simply 'cause I am trying to grow. Only I'm trapped in my soul, feeling that I wanted it all. Throw it all away. try to break the wall and let yourself on. Only I'm trapped in my soul, feeling that I'm down on the floor, simply 'cause I'm going to blow. Only I'm trapped in my soul, knowing that I'm responsible.
Avant que l'histoire ne se déchaîne, revenons un instant à la date de l'Anschluss. Si l'annexion s'est faite sans combat apparent, elle compte pourtant ses morts, héros inconnus. Avant l'arrivée des troupes d'Hitler, il y a eu des tabassages, des arrestations par les SS, afin d'éliminer les derniers opposants. Éric Vuillard revient également sur le nombre important de suicides qui ont précédé l'invasion. Il cite une lettre de Walter Benjamin où le philosophe ironise en racontant que l'entreprise de gaz se plaint des impayés chez les Juifs qui se suicident. Tandis qu'Éric Vuillard salue la mémoire de ceux qui ont pressenti la catastrophe, il interpelle aussi les derniers témoins encore en vie. Car à travers son récit sur les petites lâchetés des hommes, c'est la grande question de la responsabilité qui se pose. Et cependant, juste avant l'Anschluss, il y eut plus de 1700 suicides en une seule semaine. Bientôt, annoncer un suicide dans la presse deviendra un acte de résistance. Quelques journalistes oseront encore écrire « décès subi ». Les représailles les feront vite taire. Ainsi, le nombre de ceux qui mirent fin à leur jour demeure inconnu et leur nom ignoré. Au lendemain de l'annexion, on put encore lire 4 nécrologies. Le 12 mars au matin, Alma Biraud, fonctionnaire âgée de 40 ans, s'est entaillée les veines au rasoir avant d'ouvrir le gaz. Au même moment, l'écrivain Karl Schlesinger, âgé de 49 ans, s'est tiré une balle dans la tempe. Une ménagère, Hélène Kühner, âgée de 69 ans, s'est suicidée elle aussi. Dans l'après-midi, Léopold Bien, fonctionnaire âgé de 36 ans, s'est jeté par la fenêtre. On ignore les mobiles de son acte. Cette petite apostille banale remplie de honte. Car le 13 mars, personne ne peut ignorer leur mobile. Personne. On ne doit d'ailleurs pas parler de mobile, mais d'une seule et même cause. Alma, Karl, Léopold ou Hélène ont peut-être aperçu depuis leur fenêtre ces Juifs que l'on traîne par les rues. Il leur a suffi d'entrevoir ceux auxquels on a rasé le crâne pour comprendre. Il leur a suffi d'entrevoir cet homme sur l'occiput duquel les passants avaient peint une croix de taux, celle des croisés, et que portait encore il y a une heure le chancelier Schusnigg au revers de sa veste. Il a même suffi qu'on le leur dise, qu'il le devine, le suppute, l'imagine avant même que cela n'arrive. Il a suffi qu'il regarde les gens sourire pour savoir. Et peu importe que ce matin-là, Hélène ait vu ou non, parmi la foule hurlante, les Juifs accroupis à quatre pattes, forcés de nettoyer les trottoirs sous le regard amusé des passants. Peu importe qu'elle ait ou non assisté à ces scènes ignobles où on leur fit brouter de l'herbe. Sa mort traduit seulement ce qu'elle ressentit. Le grand malheur. La réalité hideuse. Son dégoût pour un monde qu'elle vit se déployer dans sa nudité meurtrière. Car au fond, le crime était déjà là, dans les petits drapeaux, dans les sourires des jeunes filles, dans tout ce printemps perverti. Et jusque dans les rires, dans cette ferveur déchaînée, Hélène Kühner dut sentir la haine et la jouissance. Elle a dû entrevoir en un raptus terrifiant, derrière ces milliers de silhouettes, de visages, des millions de forçats. Et elle a deviné derrière la liesse effrayante la carrière de granit de Mauthausen. Alors, elle s'est vue mourir. Dans le sourire des jeunes filles de Vienne, le 12 mars 1938, au milieu des cris de la foule, dans l'odeur fraîche des myosotis, au cœur de cette allégresse bizarre, de toute cette ferveur, elle dut éprouver un noir chagrin. Serpentins, cotillons, petits drapeaux, que sont-elles devenues ces jeunes filles folles d'enthousiasme ? Qu'est devenu leur sourire, leur insouciance, leur visage si sincère, si joyeux, toute cette jubilation de mars 1938 ? Si l'une d'elles aujourd'hui se reconnaît soudain sur l'écran, à quoi pense-t-elle ? La vraie pensée est toujours secrète depuis l'origine du monde. On pense par apocope, en apnée. Dessous, la vie s'écoule comme une sève, lente, souterraine. Mais à présent que les rides ont rongé sa bouche, irisé ses paupières, amui sa voix, le regard errant à la surface des choses entre le téléviseur qui crachote ses images d'archives et le yaourt, tandis que l'infirmière vaque autour d'elle sans plus savoir, très loin de la guerre mondiale, les générations se succédant comme se relaient les sentinelles dans la nuit noire, comment séparer la jeunesse que l'on a vécue, l'odeur de fruits, cette montée de sève à couper le souffle, d'avec l'horreur ? Je ne sais pas. Et dans sa maison de retraite, parmi la fade odeur d'éther et de teinture d'iode, dans sa fragilité d'oiseau, est-ce que la vieille enfant fripée qui se reconnaît sur le petit film, dans le rectangle froid du téléviseur, elle qui est toujours vivante, après la guerre, les ruines, l'occupation américaine ou russe, ses sandales geignant sur le lino, ses mains tièdes couvertes de taches tombant lentement des accoudoirs de rotin quand l'infirmière ouvre la porte, est-ce qu'elle soupire parfois, tirant les souvenirs pénibles de leur formol ?
Éric Vuillard. On a le sentiment curieux, en tout cas avec la guerre et les événements, et notamment avec des événements collectifs, qu'il y a quelque chose d'inexorable. Mais je pense que le livre, justement, en s'approchant des puissants, en tentant d'une certaine façon de longer les responsabilités, de décrire les alcôves, tend à montrer que les choses ne sont peut-être pas inexorables et que précisément l'histoire est ce que nous en faisons.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Benjamin Vidal. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Thank you.